Bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et vous me dites si vous entendez, sinon je prendrai le micro. Il y a deux mots qui m'ont frappé dans le titre de ce colloque, c'est bien sûr affectif et lieu. Il y a beaucoup de connotations et de... Ça peut être ambigu le mot affectif et le mot lieu. Mais pour moi qui suis, comme je vais vous le dire, un spécialiste de la... transfert de l'information dans le cerveau, ça m'a semblé nécessaire d'appeler mon titre neuroarchitecture. En fait, neuroarchitecture, pourquoi ? Parce que il y a eu un développement considérable des neurosciences pendant ces dernières années, ces 30 dernières années. J'ai eu la chance de démarrer dans les années 60, au démarrage de, disons, des neurosciences un peu modernes, introduction de la biochimie avec l'électrophysiologie et l'anatomie, et il y a eu, sur le plan des connaissances, un développement inouï, mais pas sur le plan de la thérapeutique. On y reviendra peut-être dans la discussion. Neuroarchitecture maintenant, parce que les neurosciences sont débordées dans beaucoup de domaines, le neurodroit, la neuroéconomie, le neuromanagement, et bien sûr la neuroarchitecture. Alors, en fait, spécialiste de l'information, c'est spécialiste du transfert des messages dans le cerveau, c'est-à-dire émettre et percevoir. Et en fait, ça peut se représenter d'une manière réductionniste, c'est-à-dire au niveau moléculaire, ou bien plutôt sur des problèmes globaux, c'est-à-dire des analyses de système, et je vais essayer de progressivement d'y venir. Donc, je suis désolé, mais vous allez rentrer un petit peu dans les problèmes de neurotransmission. La deuxième chose qui est importante, c'est peut-être pour vous, c'est un peu paradoxal, c'est un spécialiste du cerveau ou de la neurotransmission s'intéresse à l'architecture. Donc je vais essayer de répondre à deux questions. Au départ, c'est celle de la neurotransmission et celle de pourquoi je m'intéresse à l'architecture, ou disons plus que l'architecture même. Et puis ensuite, la deuxième partie de cet exposé consistera à expliquer d'une certaine manière simplifiée l'organisation fonctionnelle et spatiale du cerveau. Pourquoi la nécessité d'un modèle simplifié ? Quand je faisais de la recherche dans l'équipe de mon groupe de recherche au Collège de France, j'avais le besoin effectivement de, par rapport aux étudiants, par rapport même aux chercheurs ou au public, d'expliquer simplement ce que l'on faisait. C'est-à-dire de traduire en langage le plus simple possible cette complexité de ce qui nous sert à comprendre et à apprendre. Bon. Et en fait, ça a non seulement des vertus pédagogiques, mais d'autre part, ça vous sert à hiérarchiser les problèmes, à les exposer et finalement à réfléchir sur votre propre domaine et se poser des questions. Donc, la deuxième partie de cet exposé sera l'explication d'un modèle simplifié d'organisation spatial et fonctionnel du cerveau. Ensuite, vous savez que la nature, la biologie, mais pas uniquement que la biologie, est un modèle pour d'autres disciplines. Et je ne parle pas de Léonard de Vinci, de Darwin, etc. Mais le biomimétisme est quelque chose qui est fécondeur et qui permet de trouver des tas de nouvelles applications. Je prends un exemple. En ce moment, on parle beaucoup de l'hydrogène comme une énergie nouvelle. Eh bien, il y a des chercheurs, des chimistes, qui sont partis de bactéries qui ont la capacité de transformer l'eau en hydrogène et l'oxygène. Et c'est une des sources prochaines de la fabrication d'hydrogène qui remplacera peut-être, disons, les sources d'énergie. Autre chose, la chimie douce. La chimie douce est une chimie qui demande très peu d'énergie. Et en fait, elle est représentée par les coquilles Saint-Jacques, par exemple, ou les structures d'escargots. Ce sont des structures extraordinaires sur le plan esthétique, assez solides, assez robustes. Et la chimie douce, est une chimie qui est en train de considérablement se développer. En architecture, c'est important parce qu'on va certainement découvrir des nouveaux matériaux. Donc... les applications possibles de ce biomimétisme. Alors, j'ai pensé aussi que le modèle simplifié du cerveau pouvait s'appliquer à l'état d'aubaine. Et c'est pour ça que progressivement, et je vous dirai pourquoi, je l'ai appliqué, disons, à l'architecture, à l'organisation spatiale et à l'organisation fonctionnelle d'ensemble de bâtiments. Et puis après, puisque j'ai eu cette chance, disons, de grands domaines comme le campus de Saclay, j'y reviendrai. Et puis après, ben, je ferai des conclusions, puisque vous avez demandé dans l'introduction d'avoir quelques perspectives, c'est-à-dire comment peut-on, ensemble et collectivement, penser la ville. Alors, voilà, je vais d'abord répondre à deux questions. La première, c'est qu'est-ce que c'est que le transfert de l'information dans le cerveau? Et deuxièmement, pourquoi je me suis intéressé à l'architecture? Je vais commencer par quelque chose de très réduit. La plus petite unité fonctionnelle dans le cerveau, c'est une triade, c'est-à-dire à la fois les neurones, évidemment, vous connaissez tous, les cellules gliales, ce sont des cellules de soutien qui prennent une importance de plus en plus grande maintenant. Les plus importants sont les astrocytes, ce sont des cellules étoilées. Et en fait, le troisième partenaire, ce sont les capillaires sanguins. C'est-à-dire qu'il y a une longueur démesurée, invraisemblable, de capillaires sanguins dans le cerveau. Et cette triade, c'est la triade fonctionnelle réductionniste qui vous permet de transmettre de l'information. Alors, pour aller plus vite, je vais m'apesantir un peu plus sur le neurone. Les neurones, eh bien, comment c'est représenté? Le plus simple, c'est de regarder des arbres. D'accord? Et les arbres sont constitués de racines, d'un tronc, le tronc, d'accord, de l'arbre. Ensuite, le tronc qui peut être plus ou moins long, tortueux. Des branches qui représentent les branches de l'arbre. Des arborisations, d'accord, et des feuilles. Énormément de feuilles en été, d'accord. Cet arbre, il y en a plusieurs formes et plusieurs tailles, d'accord. Et puis, finalement, dans une forêt, il est très difficile de savoir à qui appartiennent les feuilles, à qui appartiennent les branches, etc. Donc, le cerveau, c'est à peu près la même chose. C'est une énorme forêt. Bon. Autre propriété des arbres, c'est qu'ils ont une écorce qui les protège. Les neurones ont parfois une gaine de myéline qui les protège également. Et puis, dans les arbres, on a besoin bien sûr de sève. Et la sève transite par des canaux. C'est un flux entérograde, d'accord, qui apporte les éléments nutritifs, disons, aux feuilles, qui elles captent l'oxygène. Et à partir de là, vous avez des flux rétrogrades qui donnent des signaux. Bon. Les neurones, c'est la même chose. Les racines, ce sont les dendrites. Le corps cellulaire, eh bien, c'est la base du tronc. Les axones, c'est le tronc, qui sont parfois, ben, pas toujours, entourés de myéline. C'est une gaine de protection avec des nœuds qu'on appelle les nœuds de Ranvier qui provoquent finalement la capacité de phénomène saltatoire pour transmettre l'information assez rapidement. Les arborisations et le nombre innombrable de feuilles, ça correspond aux synapses, c'est-à-dire ces endroits où finalement les terminaisons nerveuses entrent en contact avec des dendrites d'un autre neurone. Bon. Et vous voyez qu'un neurone, il y a 85 milliards de neurones dans le cerveau, un neurone peut faire 10 000 contacts environ, et vous voyez que d'un seul coup, ça devient impossible à comprendre comment ça fonctionne. Donc, ça c'est, disons, la base même de ce neurone, et qui est entouré de cellules gliales qui les protègent et qui apportent ce qui est important, c'est le sucre, le glucose, l'énergie et l'oxygène, parce que ça dérive du sang. D'accord. Sans oxygène et sans glucose, il n'y a pas de cerveau, et c'est le coma avec tout ce qui peut s'en suivre. Voilà déjà pour la première chose. Maintenant, si on se projette au niveau d'une terminaison nerveuse, pour être encore plus réduit, vous avez des substances qui vont intervenir dans le transfert de l'information. On les appelle des neurotransmetteurs ou des médiateurs chimiques. C'est un peu différent des hormones que vous connaissez, qui, elles, passent dans le sang et vont finalement d'un organe à un autre. Alors que le neurotransmetteur est libéré à partir d'une terminaison nerveuse, franchit un espace très petit, de quelques angstroms, et il va agir sur des récepteurs, c'est les protéines qui sont dans une membrane. Ce qui est important, c'est comment se synthétise ce médiateur chimique qui est formé à partir d'un acide aminé, le plus souvent, en quelques étapes. Parfois, c'est même un acide aminé. Vous savez, vous devez savoir qu'il y a une vingtaine d'acides aminés dans l'organisme et qu'avec ça, vous constituez des molécules extraordinaires. Mais les médiateurs chimiques sont synthétisés le plus souvent en quelques étapes. Ensuite, le médiateur est stocké dans les vésicules synaptiques qui sont proches de la membrane. Et puis, quand il y a un influx nerveux qui arrive, qui est la propagation finalement des échanges entre du potassium et du sodium, et ça arrive au niveau de la terminaison, il y a une entrée de calcium et le médiateur est libéré. Il passe dans la synapse et il va agir sur un récepteur, une protéine qui se trouve dans la membrane du neurone receveur. Alors là, ce qui est très intéressant, et c'est une des subtilités de la neurotransmission, c'est que vous imaginez les clés et les serrures. Un médiateur chimique est une clé qui peut ouvrir plusieurs serrures. D'accord. Dans ce château, par exemple, vous avez un passe-partout, eh bien, vous pouvez imaginer qu'il y a un médiateur, c'est celui de la convivialité. Bon, eh bien, mais en fait, vous avez aussi la possibilité de fermer chaque porte par une serrure particulière. C'est-à-dire, il y a une clé particulière pour chaque porte. Eh bien, la neuropharmacologie, c'est la capacité de fabriquer des molécules d'origine naturelle ou synthétique qui ont la capacité d'agir plus spécifiquement sur les différentes portes du château. Mais vous avez toujours un passe-partout qui est le médiateur chimique. Une fois que le médiateur a agi sur ces récepteurs qui ont deux propriétés, soit ce sont des récepteurs qu'on appelle ionotropiques ou métabotropiques. Ionotropique, c'est-à-dire que quand il y a une action du médiateur sur le récepteur, il y a un passage d'un ion, transfert d'une information. Transfert très rapide. Ou métabotropique, et ça c'est très important, c'est-à-dire que vous avez une interaction qui génère un second messager à partir d'une enzyme qui se trouve de l'autre côté du récepteur. Et second messager va se promener dans la cellule et avoir un certain nombre d'effets, même aller jusqu'au noyau et agir sur l'expression des gènes. Et j'y reviendrai. Donc, ensuite, il faut bien sûr inactiver ce neurotransmetteur, le dégrader. Et vous voyez que chacune de ces étapes est régulée et peut se modifier dans le temps. Et on y reviendra également. Alors, la neuropharmacologie, c'est ce que c'est. Ce sont des substances d'origine naturelle au départ, dérivées des plantes, des alcaloïdes, ou bien qui ont été synthétisées par les chimistes et qui agissent finalement aux différentes étapes de la neurotransmission, soit sur la synthèse, soit sur le stockage, soit sur la libération du médiateur, soit sur les récepteurs, soit sur l'inactivation. Et par tous ces effets, eh bien, on peut augmenter ou diminuer les concentrations du médiateur dans la synapse ou imiter les effets du médiateur sur le récepteur. En fait, Claude Bernard disait que ce sont des scalpels qui permettent d'élucider ou de disséquer les différents mécanismes de la neurotransmission. Voilà, vous avez là, en peu de temps, disons l'essentiel de ce qui se passe au niveau le plus réduit possible sur la neurotransmission. Alors, pourquoi je m'intéresse à l'architecture? En fait, j'ai fait ma thèse. Pas le privilège, mais au contraire l'inconvénient d'être assez âgé. Et dans les années 60-65, j'étais à l'Institut Pasteur, puis après, ensuite, je suis allé aux États-Unis. Et là, ce qui m'a frappé, c'est la qualité des bâtiments de recherche ou des bâtiments universitaires. J'étais absolument saisi d'émotion, c'est le cas de le dire, par un certain nombre de bâtiments. Je parle, pour commencer, du Salk Institute à San Diego, qui avec par Cannes, en face de la mer, un endroit absolument extraordinaire, ou bien par les bâtiments de Saarinen à Yale. Il y a aussi cette bibliothèque extraordinaire, des tas de bâtiments formidables que l'on peut trouver aux États-Unis qui m'ont beaucoup frappé. Et surtout le soin qui était porté à la facilité de... Tout était assez facile. Moi, j'étais au National Institute of Health à Bethesda, et dans un parc magnifique, et vraiment le respect de la nature, etc. J'ai donc, d'un seul coup, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Alors, j'étais parisien, alors évidemment, c'était pas la même chose. Et puis, ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer des architectes quand je suis revenu des États-Unis, et Bofill notamment, et Niemeyer. Alors, Bofill, c'était le premier qui m'a posé des questions sur la neurotransmission et l'architecture. Alors, j'étais un peu naïf, et puis je n'ai pas vraiment bien répondu. Oscar Niemeyer m'a appris la pluridisciplinarité. Quand il avait un bâtiment à faire, il constituait une équipe de gens de compétences complètement différentes. Il réfléchissait, il regardait toujours le bâtiment avec un œil posé en bas du dessin pour avoir une vue d'en bas et embrasser, si vous voulez. J'ai travaillé avec lui sur une université algérienne. Donc, j'ai énormément appris à ce moment-là. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que le Collège de France, j'étais jeune chercheur, puis après je suis devenu vice-président de l'Assemblée des professeurs dans les années 90, pardon. Et puis avant, j'étais déjà professeur à ce moment-là de neuropharmacologie. Et j'ai eu l'idée de dire au président de l'Assemblée des professeurs qu'il faudrait peut-être rénover le Collège de France. Et il connaissait Biasini, il connaissait Lang, et finalement, il était décidé qu'on ferait une rénovation du Collège de France dans les cadres des grands travaux de Mitterrand. Et finalement, le Collège a été pris comme exemple pour refaire un bâtiment ancien et l'adapter au monde moderne, et j'ai été nommé responsable de cette rénovation. D'autres responsables de la maîtrise d'ouvrage. Il y avait bien sûr la mission des grands travaux et des architectes. Et voilà. Et je me suis occupé de ce projet pendant 24 ans. Donc, phase après phase, avec tous les aspects, l'argent, convaincre les gens, etc., les gouvernements, les ministres, vous pouvez imaginer. Et au cours de ce parcours, il y a des gens qui se sont rendus compte que je m'intéressais, disons, à l'architecture. Et M. Landrieux, qui était préfet de la région de l'Île-de-France, m'a nommé garant de la concertation pour une grande opération d'urbanisme sur les départements d'Essonne et des Yvelines. Et en fait, il m'a nommé garant de la concertation. Donc, je me suis retrouvé à discuter avec les industriels de cet endroit, ensuite les groupes universitaires nombreux, et puis les associations de défense de la nature, etc. Donc, de plus en plus, je m'intéressais de plus en plus à ces problèmes, jusqu'à la création du plan campus de Mme Pécresse, où j'ai été nommé dans le comité du plan campus, et donc j'ai vu les efforts de beaucoup d'universitaires avec des spécialistes de la ville, et qui, à Strasbourg, à Toulouse, à Bordeaux, Montpellier, Grenoble, ainsi de suite, Et puis, à Saclay, ça se passait très mal. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des égos démesurés dans les grandes écoles, polytechniciens, HEC, etc., centrales. Et ça se passait si mal que finalement, il y a eu une bagarre entre Mme Pécresse et Christian Blanc, qui était secrétaire d'État, qui a inventé l'idée du métro, du grand métro. Et ils ont décidé tous les deux de nommer des chefs de mission pour réorganiser le campus de Saclay. Et j'ai été nommé par Mme Pécresse, chef de mission. J'ai eu la charge pendant un an de tenter de réorganiser, si vous voulez, le Saclay, avec toutes les universités Paris 11, les grandes écoles, et ainsi de suite. Donc là, je suis passé de l'architecture, des problèmes de l'architecture, aux notions de neuromanagement, c'est-à-dire après l'urbanisme, et j'ai fait ça avec un urbaniste qui s'appelle Red Chen, que vous devez connaître peut-être. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout spécialiste de l'architecture, mais depuis cette époque, je travaille avec un architecte et je fais des projets. Je m'intéresse à l'organisation spatiale et fonctionnelle. Donc voilà, j'ai répondu à ces deux premières questions. Neurotransmission. Et deuxièmement, pourquoi je suis ici? Et maintenant, je vais attaquer la deuxième partie de cet exposé, qui est un modèle simplifié du cerveau. Et bien sûr, je répondrai à vos questions. Si jamais vous voulez m'interrompre, allez-y. C'est vraiment l'esprit de la maison et c'est l'esprit de nos amis organisateurs. En dehors de cette espèce d'unité limitée, la triade dont j'ai parlé, les capillaires sanguins, les astrocytes qui entourent les neurones, et le neurone, eh bien, on peut se représenter le cerveau pour simplifier, bien sûr, par un ensemble de structures. Alors, je ne vais pas vous faire une énumération de toutes les structures du cerveau, mais vous en connaissez certaines, qui ont des fonctions un peu spécifiques. Mais pourtant, aucune fonction cérébrale n'est associée à une seule structure. Ça, c'est la seule chose qu'il faut se souvenir. D'accord ? Donc, pour simplifier les choses, on peut essayer quand même de découpler ou de découper le cerveau en plusieurs parties, mais c'est tout à fait artificiel, puisque tout est rassemblé. Elles sont connectées. Mais disons que vous avez des parties qui sont à la base du cerveau, qui interviennent dans le contrôle de la respiration ou du fonctionnement cardiaque, qui sont bien sûr indépendantes dans une certaine mesure de la volonté, et qui gouvernent les systèmes neurovégétatifs, d'accord, périphériques. Puis vous avez quelque chose que vous connaissez bien, ce sont la sphère endocrinienne, c'est-à-dire l'hypophyse qui est contrôlée par l'hypothalamus, qui est une structure, c'est pas les restaurants qu'on voit dans Paris, etc., c'est pas la chaîne de restaurants, mais c'est, pourtant, il y a des analogies avec la faim, on n'est pas très très loin, etc. Et voilà, ça c'est déjà des domaines. Et puis après, il y a trois sphères interconnectées, et je crois que c'est ce qui va vous intéresser, ou ce qui devrait nous intéresser aujourd'hui. C'est la sphère sensorimotrice qui intervient dans l'exécution. Rien n'est plus compliqué que de prendre un verre d'eau, le serrer très bien sans l'écraser, le boire, sans en renverser à côté. Donc vous imaginez le nombre de gestes que vous devez faire, et puis vous les faites instinctivement. Donc la sphère sensorimotrice, percevoir, intégrer, réagir, répondre, etc. Et il faut que, pour que ça soit très très vite, il n'y a pas tellement de neurones qui sont impliqués. Ça va de la périphérie, ça passe dans la moelle épinière, ça arrive à une structure qu'on appelle le thalamus, de là ça va au cortex sensoriel, de là ça passe au cortex moteur, et là, des neurones énormes, très longs, qui arrivent jusque dans la moelle épinière, aux différents niveaux de la moelle épinière, et puis un autre neurone, hop, et qui va contracter le muscle. Donc c'est simple. Mais pourtant, derrière, il y a toute une machinerie extraordinaire qui régule, notamment la posture, comme je suis en train de le faire, ou bien les terminaisons proximales, distales, comme... Bon, alors il y a des structures comme les ganglions de la basse qui interviennent dans la posture, ou le cervelet, le pianiste qui sait tout faire, etc. Voilà. Donc c'est la sphère sensorimotrice. La deuxième sphère qui est importante, et c'est celle qui va vous intéresser certainement, c'est la sphère limbique ou émotionnelle. La sensation de satisfaction, de plaisir, d'excitation, et puis, ou à l'inverse, d'exaspération, de mauvaise humeur, d'agressivité, de violence, de dépendance. Et cette sphère émotionnelle ou sphère limbique, elle comprend un certain nombre de structures nerveuse, je ne vais pas les énumérer, mais peu importe, mais elle est très très importante, comme vous pouvez l'imaginer. La troisième, très développée chez l'homme, c'est la sphère, disons, cognitive, c'est celle qui permet de se projeter dans l'avenir en tenant compte des informations de la sphère sensorimotrice ou de la sphère émotionnelle, et également qui permet de faire des choix, de prendre des décisions. Elle tient compte d'une histoire, le passé, la mémoire, et donc c'est vraiment quelque chose qui part de l'histoire, proprement dit, jusque finalement au futur, la projection dans l'avenir. Alors, quelles que soient vos actions, et ça c'est très important, vous utilisez des composantes de chaque sphère, sensorimotrice, limbique ou cognitive, d'accord ? Mais en proportion variable. Et c'est ça qui fait la diversité et la richesse des individus. D'accord. Deuxièmement, vous pouvez, d'une certaine façon, évoluer. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, on est passé d'un comportement social relativement collectif à après 68, un comportement, surtout 70-80, de plus en plus individualiste. Et puis de nouveau, on a eu besoin de solidarité avec la formation de beaucoup d'associations. Et disons, le monde associatif s'est considérablement développé dans ce pays. Donc, en réalité, les comportements changent et la mise en valeur ou l'intégration de ces trois sphères par rapport aux deux autres sphères qui sont toujours là, va évoluer. Et l'événement, elle évolue d'autant plus en fonction des cultures, en fonction des pays, en fonction de votre mode d'éducation. Donc, l'idée simplement déjà de se représenter le cerveau comme ça, dans sa diversité, dans sa complexité, c'est une simplification. Mais maintenant, je vais passer à un autre stade beaucoup plus simplifié encore. C'est la notion différente de celle des sphères, mais complémentaire, c'est la notion de réseau. Et au fur et à mesure de, disons, du développement des recherches de notre labo au Collège de France, qui est devenu un grand groupe, une école de neuropharmacologie, et puis bien sûr de tous les autres chercheurs du monde, s'est développé progressivement une idée de réseau. Et si vous voulez, quand j'ai été nommé professeur, au cours de ma leçon inaugurale, j'avais déjà commencé à faire un modèle simplifié pour favoriser la possibilité de transmettre. Non. Au fur et à mesure, c'est développé avec le développement des connaissances. Et pour être simple encore, je vais vous parler de trois réseaux. En fait, vous allez voir que cette présentation, c'est toujours trois. Donc c'est simple. Pour se souvenir, le rythme, c'est toujours trois. Non. Et les réseaux, il y en a trois. Le premier, c'est le réseau exécutif. Le deuxième, c'est le réseau régulateur. Et le troisième, c'est le réseau énergétique. Alors, exécutif. Et vous allez essayer de vous en souvenir parce que ça va nous servir après dans la manière de se représenter un ensemble de bâtiments ou une ville. Le réseau exécutif, il est constitué d'éléments, des neurones, bien sûr, d'accord, qui ont des particularités, sont les plus nombreux du cerveau. Ils fonctionnent avec chacun avec un médiateur chimique différent. Je veux dire, deux groupes de neurones. Il y en a un, c'est l'acide glutamique, c'est un acide aminé, c'est excitateur, et l'autre qui est dérivé de l'acide glutamique, c'est le GABA qui est inhibiteur. Essayez pas de vous souvenir des noms, ça n'a aucune importance. Mais disons que ces deux médiateurs chimiques sont impliqués dans un transfert rapide de l'information. D'accord. Et les neurones qui les contiennent sont toujours entourés de myéline, c'est-à-dire sont protégés et ils vont d'un endroit à un autre, bien déterminés. Et finalement, ils se contactent et ils forment une chaîne, d'accord, que j'appelle un ensemble de neurones distribués, qui sont impliqués dans une fonction. Donc, toutes les fonctions du cerveau, les plus simples aux plus complexes, mettent en jeu plusieurs structures cérébrales connectées par des neurones, d'accord, plus ou moins longs. Alors, il y a des neurones qui sont plus petits que d'autres, c'est des interneurones qui se trouvent autour d'une structure et qui peuvent servir d'aiguilleur en quelque sorte. Et puis il y a les neurones longs qui interviennent dans les connexions d'une structure nerveuse à une autre. Donc, le réseau exécutif, c'est pour exécuter des fonctions. Ça peut être une fonction motrice, ça peut être une réaction à une émotion, ça peut être rechercher un souvenir pour, si vous voulez, l'intégrer dans une action. D'accord. Et en fait, Ces systèmes distribués sont très nombreux, bien évidemment. Ils sont redondants, d'accord. Et ils se façonnent au cours de votre développement, puisque chez l'homme, c'est là où le développement est le plus long, et c'est là où vous apprenez le plus. Ils se façonnent en cours de l'apprentissage, et c'est là que vous avez cette formation progressive de l'utilisation le système distribué qu'on appelle le système exécutif impliqué dans l'exécution de fonctions. C'est une notion très très importante. Alors maintenant, bizarrement, ces neurones qui sont impliqués dans le système exécutif, ce n'est pas ces systèmes qui ont été découverts les premiers. Et les premiers ont été découverts au moment où j'ai commencé à faire de la recherche, dans les années 60, ce sont les systèmes régulateurs. La régulation, comme ça le dit, c'est de réguler, c'est-à-dire de modifier, faciliter ou au contraire réprimer. D'accord. Et ces systèmes, ils ont été découverts dans le cerveau à partir de 57, 58, 60, et moi-même, j'ai contribué à la découverte, des fonctions d'un des médiateurs chimiques impliqués dans ces systèmes qu'on appelle la dopamine. D'ailleurs, à l'époque, on ne connaissait pas les neurones dopaminergiques, mais la dopamine, qui était un précurseur de la noradrénaline, qui est le médiateur chimique du système sympathique périphérique, eh bien, un Suédois a découvert qu'il y avait des quantités très importantes dans une structure du cerveau. Et c'est ça qui m'a incité à faire de la recherche. Plus tard, on pourra discuter comment ça a démarré. En tout cas, ces systèmes régulateurs sont des systèmes qui fonctionnent avec 5 ou 6 médiateurs chimiques différents, l'acétylcholine, la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline, la sérotonine, l'histamine, peu importe encore les noms. D'accord. Et ce sont des groupes de corps cellulaires qui se trouvent dans les parties basses du cerveau et qui vont former des systèmes divergents, à l'inverse des systèmes dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire qu'ils idèrent différentes parties d'une structure nerveuse, ou même, pour certains, plusieurs structures à la fois. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas entourés de myéline, le transfert de l'information est relativement lent, ils sont sensibles à des informations du milieu intérieur, les hormones, ils sont sensibles à des informations du milieu extérieur, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils régulent. J'imagine que pour certains, vous êtes très réveillés ce matin, pour d'autres, ça sera cet après-midi. Bon. Alors les systèmes régulateurs, ils interviennent dans la chronobiologie, c'est-à-dire que finalement, dans votre capacité à être réveillé très tôt le matin ou au contraire dans l'après-midi. J'imagine que ça ira moins bien après le repas, mais enfin après, ça ira mieux. Et ça va dépendre de la nature du repas qui sera excellent, j'en suis certain. Et les régulateurs, c'est-à-dire, ils facilitent, encore une fois, ils répriment les possibilités fonctionnelles des systèmes distribués du système du réseau exécutif. C'est-à-dire, c'est une superposition, comme les poupées russes qui sont emboîtées, de systèmes qui s'autocontrôlent, s'auto-organisent, et les systèmes du réseau régulateur, il y a des systèmes qui se régulent eux-mêmes, c'est-à-dire qui sont contrôlés eux-mêmes, pour pas aller trop loin, pour revenir en arrière, etc. C'est un emboîtement de systèmes qui s'autorégulent, voilà. Donc c'est en interaction avec le système exécutif, mais ils sont eux-mêmes en interaction, les différents systèmes du réseau régulateur, pour se contrôler. Il y a toujours un contrôle, et c'est pour ça que finalement, on peut altérer certaines fonctions du cerveau et on récupère. Bon. Il ne faut pas aller trop loin, évidemment. Quand il y a dégénérescence, c'est fichu pour un certain nombre de fonctions. Voici, système, réseau exécutif, réseau régulateur, et maintenant réseau énergétique. Alors le réseau énergétique, comme je vous l'ai dit au début, c'est effectivement la capacité d'avoir besoin sans arrêt d'oxygène pour fonctionner. Et d'autre part, d'énergie, c'est l'énergie apportée par le glucose. Et ça vient de la circulation. Et il y a une régulation absolument extraordinaire pour que les cellules nerveuses soient toujours alimentées en fonction des besoins en oxygène et en sucre et en glucose. Ce glucose est transformé dans les cellules de soutien, les astrocytes, qui d'ailleurs créent une barrière avec le système sanguin pour que certaines molécules ne passent pas dans le cerveau et le protègent. Et ces astrocytes, ils servent à la synthèse, par exemple, de certains médiateurs, comme l'acide glutamique qui est formé à partir de glutamine, d'accord ? Ils libèrent parfois des substances qui sont nécessaires à la neurotransmission, qu'on appelle des gliotransmetteurs. Ils ont des facteurs de croissance qui favorisent l'émergence des neurones et leur, disons, croissance en fonction du développement. Ils ont des capacités d'éliminer les substances toxiques et surtout d'éliminer le potassium, c'est-à-dire qui est formé au moment de la conduction nerveuse. Il y a le sodium rentre, le potassium sort. Quand il y a trop de potassium, ça passe dans les astrocytes et de là, ça va vers le sang. Ce sont un petit peu des systèmes qui régulent absolument le métabolisme à chaque instant et ce faisant, ils régulent la perméabilité neuronale, c'est-à-dire la capacité d'excitabilité neuronale. Donc c'est des éléments déterminants et pendant jusqu'à 80, les années 80, on ne connaissait pas bien les cellules gliales. Donc ça s'est développé progressivement pendant ces dernières années. Ce qui est formidable dans les cellules gliales, c'est qu'elles communiquent entre elles par des jonctions, qu'on appelle des jonctions communicantes. C'est un peu comme des agrafes, d'accord, avec des boutons de pression, mais là, il y a des pores qui permettent le passage de petites molécules. Dans le cas de l'épilepsie, par exemple, eh bien, ces jonctions sont toutes ouvertes, le calcium file partout, et toutes les neurones deviennent excités, vous avez la convulsion que vous connaissez. Et ce qui est formidable, c'est ces jonctions communicantes. Elles sont régulées elles-mêmes par des informations provenant des neurones, du système, du réseau exécutif ou du réseau régulateur. C'est-à-dire que finalement, vous avez un certain nombre de jonctions qui peuvent s'ouvrir et d'autres se fermer, et vous formez comme ça des réseaux plus ou moins grands, plus ou moins dans le temps et dans l'espace, qui changent les propriétés possibles de fonctionnement des neurones exécutifs qui sont inondés par, ou si vous voulez, enveloppés par ces cellules gliales ou des systèmes régulateurs. Donc trois réseaux, d'accord. Le réseau exécutif, essentiel, déterminant. Le réseau régulateur qui fait d'une certaine façon, ce n'est pas spécifique à l'humain puisqu'on le retrouve chez l'escargot, on le trouve partout. Hein. Et d'autre part, le réseau énergétique qui est déterminant pour le fonctionnement cérébral. Alors, ce qui est particulier chez l'homme, et je vais terminer, si vous voulez, cette deuxième partie par deux petites phrases qui sont importantes pour comprendre le cerveau. Un, vous n'utilisez qu'une partie très très faible de vos capacités opérationnelles. Non. Très très faible. C'est-à-dire que l'avenir est devant vous. Deuxièmement, le système est très redondant. C'est-à-dire que s'il y a une déficience, elle peut être corrigée, etc. Ça, c'est important aussi pour l'architecture et l'urbanisme. C'est de penser à la redondance, c'est de penser à la souplesse, c'est de penser à la flexibilité. Et puis, deuxièmement, il y a la possibilité de mémoriser à long terme et de changer, c'est-à-dire d'avoir une capacité de flexibilité, mais qui est quelque chose de plus que la flexibilité, c'est quelque chose qui devient presque irréversible. Bon. Et en fait, c'est la plasticité. D'accord. Donc le cerveau est plastique, comme l'architecture peut être plastique, comme l'organisation des villes peut être plastique. C'est-à-dire que finalement, on passe d'une transition d'un état dans un autre état. D'accord. Et ça se fait au niveau moléculaire, dont j'ai parlé. Et puis, quand vous changez les capacités opérationnelles d'une synapse, eh bien, mais pendant longtemps, toute la chaîne du système distribué impliqué dans une fonction devient progressivement modifiée. Et elle devient sélectionnée et elle acquiert une capacité nouvelle. C'est ce qu'on appelle la plasticité. Alors, vous savez qu'il y a eu pendant très très longtemps des débats entre les psychothérapies, les psychanalystes et puis les neurobiologistes. Et ces débats violents, quand je suis revenu des États-Unis, c'était absolument... Je me suis fait traiter tous les noms. Mais maintenant, on peut voir ce que l'on ne pouvait pas voir avant grâce aux techniques d'imagerie cérébrale. C'est-à-dire que avec les techniques d'imagerie cérébrale, on est capable de voir les modifications, disons, de certains territoires du cerveau dans certains comportements, dans certaines actions, même pendant l'inconscient. D'accord ? C'est-à-dire même pendant les rêves. Bon, et on peut voir quelles sont les structures qui sont connectées les unes aux autres, ces systèmes distribués, comme disent les gens qui font de l'imagerie, s'allument. C'est-à-dire qu'on peut voir effectivement apparaître ces ensembles distribués fonctionnels dont je parlais du système exécutif. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous percevez, ce que vous pensez et, disons, la biochimie du cerveau ? Oui, il y a un lien. Je ne veux pas dire que tout est organique, mais je veux dire qu'il y a une réciprocité constante. Et je disais hier à certains d'entre vous que nous avons presque autant de gènes que la drosophile, d'accord ? C'est pas tellement. Mais chez l'homme, la femme bien évidemment, eh bien il y a dans le génome des parties non lues, très très importantes, qu'on appelle les introns, d'accord ? Par rapport aux exons qui sont lus et qui servent à la synthèse des protéines. Et ces parties non lues sont sollicitées quand il y a certains des signaux qui mettent en jeu des récepteurs métabotropiques par des seconds messagers qui font arriver au niveau du noyau, intervenir sur ces parties non lues, exprimer des systèmes régulateurs qui vont aller réguler les gènes, et vous allez exprimer une protéine qui n'est jamais exprimée ou en plus grande quantité, et vous allez modifier finalement un signal extérieur, modifie les propriétés internes. Et ça peut être réciproque. Donc en réalité, vive la psychanalyse, vive la psychothérapie, il n'y a pas de gêne. Au contraire, c'est un enrichissement mutuel de ces disciplines pour finalement faire fonctionner cette boîte mystérieuse qui nous sert à comprendre. Alors maintenant, comment transposer ce système, si vous voulez, pour l'architecture ou un ensemble de bâtiments ? Alors, quand j'ai eu à m'occuper du Collège de France, c'est pas tout de suite, mais j'ai tout de suite pensé que expliquer un fonctionnement d'un ensemble de bâtiments aux architectes ou, disons, aux entreprises, d'une autre façon que celle qu'ils utilisaient d'habitude, était une possibilité imagée peut-être intéressante. Et je me suis servi du système exécutif pour parler des fonctions dans l'ensemble de bâtiments, la fonction administrative, la fonction de recherche, la fonction d'enseignement, la cafétéria, ainsi de suite, et pour montrer que ces fonctions doivent être distribuées d'une certaine façon pour que le système soit très opérationnel. D'accord. Ensuite, je me suis dit que il y avait besoin de régulation. D'accord. Et qu'est-ce qui régule dans un bâtiment ? C'est les possibilités d'ouverture des portes, c'est-à-dire le non-cloisonnement, c'est-à-dire cette possibilité de variabilité, d'accord ? C'est-à-dire de changer des espaces, ce qui fait que d'un seul coup, vous enrichissez les capacités opérationnelles de votre bâtiment, d'accord ? Et naturellement, ce qui compte beaucoup dans un ensemble de bâtiments, on viendra pour la ville, c'est la même chose, c'est la lumière. C'est les éclairages, c'est une certaine cohérence, pas de brutalité, mais des transitions douces, d'accord. Et puis, ce qui est bien déterminant, c'est que dans un bâtiment, c'est que ce qui est énergétique, c'est tout ce qui fait fonctionner le bâtiment, c'est-à-dire les canalisations, les fluides, etc. Mais tout doit être pensé en même temps que le reste pour s'adapter constamment aux possibilités opérationnelles du système et pour que la maintenance soit la moins coûteuse possible et facile et qu'elle soit en possibilité de plastique, d'évolution. Bon, alors à partir de là, vous arrivez très très rapidement à expliquer finalement que le cerveau vous aide à construire des espaces fonctionnels, opérationnels, plus ou moins cohérent, et naturellement en discutant avec les architectes ou avec les gens qui interviennent dans la création de ce genre de choses, eh bien, ils vous enrichissent eux-mêmes par les questions qu'ils vous posent ou les questions qu'ils se posent. Alors, la ville. Eh bien, je me suis intéressé au problème de la ville quand j'étais confronté à Saclay, à l'organisation du campus de Saclay. Et là, bien sûr, les problèmes étaient nombreux. J'ai eu la chance de parler avec une urbaniste hier qui me racontait qu'elle coordonnait. Et naturellement, il faut convaincre les gens qui vont construire cette ville. Il faut convaincre les urbanistes d'autre part. Il faut convaincre les maires et les utilisateurs et ainsi de suite. Donc, c'est un travail énorme. Et donc, la ville, j'ai pensé tout de suite à un système exécutif. Les villes ont une forme et un métabolisme. D'accord. Alors, la forme, c'est quelque chose qui est déterminante au départ, mais elle peut évoluer. Vous savez bien que les grandes métropoles, puisqu'il y a eu un déplacement des populations des campagnes vers les villes, et ils se sont agglomérés le plus souvent à la périphérie des villes, et ensuite le système devenait pas du tout opérationnel, il devenait pas du tout distribué, les fonctions étaient mal réparties, d'où effectivement le problème des banlieues, etc., les problèmes de la mobilité. Deuxièmement, le métabolisme d'une ville, c'est son fonctionnement, et comme vous savez, si je prends Paris, vous entendez tout le temps parler des histoires, je suis désolé de prendre Paris, parce que je pourrais prendre d'autres villes, mais je les connais moins, les bouchons, la pollution, la chaleur, c'est absolument très difficile sur le boulevard Saint-Germain en ce moment à 3h de l'après-midi. C'est impossible. Surtout que, bien sûr, maintenant, il y a quelques personnes qui ont la chance de courir sur les quais de la Seine, mais au-dessus, c'est l'enfer. Donc, la ville, je me la représente comme des structures du cerveau, des arrondissements, d'accord, des quartiers, d'accord, des grandes voies de communication, comme les axones qui vont d'une partie du cerveau à une autre, les circuits locaux. Donc vous voyez qu'il y a des ressemblances entre l'organisation du cerveau et l'organisation d'une ville. Et effectivement, ensuite, quand vous pensez à un système exécutif, vous êtes dans une ville, vous avez une image, une représentation mentale des fonctions distribuées de la ville, c'est-à-dire la fonction administrative, par exemple, où sont les mairies, les centres de décision, les postes, vous avez la fonction financière, les banques, et d'un seul coup, vous avez une cartographie qui se fait dans votre cerveau. Et puis, vous avez la fonction des artisanales, les commerces, les écoles, la santé. Vous voyez, voici toutes ces fonctions. Et finalement, vous dites, ça marche bien cet endroit, mais ça ne marche pas d'autres endroits, c'est mal distribué. C'est trop loin pour aller d'un endroit à l'autre. Donc, vous imaginez dans votre tête comment est la ville et vous voyez tout de suite les fonctions se rassembler dans quelque chose de cohérent ou d'incohérent. Naturellement, ça dépend de la forme de la ville. Donc, il y a un lien entre la forme et le fonctionnement. D'accord. Alors, les régulations. C'est là où on peut intervenir, parce qu'on peut intervenir beaucoup plus rapidement sur les régulations que sur les systèmes distribués. Le temps est plus court. Et dans le système régulateur, ce qui vous vient à l'esprit, c'est la mobilité, les transports, ajouter une diversité dans les transports. Et en ce moment, c'est quand même extraordinaire de voir des gens en patin roulette ou bien avec ces appareils surf et ainsi de suite. Donc, et on imagine qu'il va y avoir des systèmes de transport extraordinaires. J'ai vu dans Le Monde hier qu'aux États-Unis, la ville de Chicago va bénéficier de petits tunnels où vous aurez des navettes électrifiées qui iront à 100 km à l'heure. Et ça le sera. C'est Musk, c'est le type qui fait. Tesla, là, qui a fait les voitures et puis qui ensuite est parti dans l'espace beaucoup moins cher que d'autres. Donc il va y avoir un effort de mobilité extraordinaire. Mais il faut aussi penser qu'il faut peut-être penser la ville pour qu'il y ait besoin de moins de mobilité. C'est aussi une manière de voir la ville d'une autre façon. Parce que on ne résout pas tout. On a vu que la voiture a tué la ville, d'une certaine façon. Au début, c'était quelque chose qui offrait la liberté, mais en fait, c'est la contrainte. Donc, ça, c'est un problème de régulation. La deuxième, c'est la lumière. La lumière est très importante parce que ce qui se passe dans les villes très souvent, c'est le stress le soir, l'anxiété, disons la protection. Donc le problème de la lumière, de l'éclairage, peut se faire même dans la journée de la manière dont on pense la ville, mais également le soir. La signalisation, la signalétique est très très importante. Je plains les pauvres touristes qui viennent à Paris en ce moment, coincés dans leur voiture, ils n'ont pas le temps de voir les panneaux d'affichage et puis ils se trouvent ailleurs tout de suite. Donc c'est important. Et puis on parle beaucoup de ces villes connectées. Moi j'ai beaucoup de craintes. J'ai beaucoup de craintes avec cette connectivité. C'est-à-dire, c'est à la fois un progrès, mais c'est aussi une contrainte. Je veux dire que quand je vois tous les jeunes en ce moment qui passent 2 heures par jour avec leur iPhone, leur smartphone, c'est-à-dire que les organes des sens ne sont pas équilibrés. Et en réalité, il y a une déficience qui s'opère à la longue. Donc, en fait, vous avez besoin d'un équilibre. Donc, les villes connectées, d'accord, mais toujours avec mesure. Donc, vous voyez que ça, c'est une chose. Il y aura des systèmes de régulation. Ce qui est important, c'est évidemment des édifices. Je ne parle pas des bâtiments, je parle des édifices, c'était de l'histoire. Parfois, il faut mieux réhabiliter que détruire pour se souvenir du passé et justement trouver un rapport affectif à certains lieux, à certains espaces. Il faut créer cette capacité de mémoriser. Et là, la mémoire est quelque chose d'important. Quand je parle de la mémoire, je passe aussi à l'arbre. Si vous voulez, quand vous voyez un arbre pour la première fois, vous voyez la forme, d'accord? Puis quand vous venez la seconde fois, vous connaissez la forme, donc vous regardez les branches, l'allure générale de l'arbre. Et quand vous venez une troisième fois, vous regardez des choses beaucoup plus petites. Donc la mémoire fonctionne de cette façon-là. C'est pour ça que moi, je ne prends jamais de notes, si vous voulez, pour que ça s'engrave progressivement dans ma mémoire, et que les choses essentielles deviennent déterminantes. Et c'est autour de ce qui est essentiel que s'attachent les détails. D'accord. Bon, donc c'est à peu près la même chose dans une ville. Il faut que vous ayez des objets signifiants qui vont permettre un accrochage progressif d'un certain nombre de choses, et qu'en fonction de votre sensibilité et fonction de votre capacité de percevoir, vous attachiez ce que vous voulez à cet arbre, qui est finalement votre arbre de vie, votre souvenir, votre ce que vous appelez l'affectif. Alors, c'est là, et obligatoirement, c'est divers. C'est-à-dire qu'il faut qu'une multiplicité de ces signes pour créer un ensemble cohérent. Il faut éviter, bien sûr, l'homogénéité, la répétition trop grande. Mais il faut qu'il y ait de la cohérence. Donc, voilà en quelques mots comment on peut s'intéresser à la ville. Et évidemment, il faut que ce soit possible, réalisable. Il faut que ça ne coûte pas trop cher. Il faut que ce soit, disons, quelque chose de progressif. Donc pas utopique. Possible. Je vais terminer pour laisser le grand temps à la discussion en disant de cet ensemble ce que l'on peut en tirer. Personnellement, deux choses. La première, c'est la diversité. Comme vous l'avez fait pour ce colloque, c'est un ensemble de compétences qui crée la richesse. Et si vous voulez, l'innovation, la création, c'est toujours la confrontation de plusieurs disciplines. Donc, la ville ne doit pas être monotone, elle doit être diverse. Il y a plusieurs types de diversité, c'est ce qui fait les spécificités des villes. Et finalement, elles ne se ressemblent pas, heureusement. Venise n'est pas Liège, mais pourtant, il y a des points de ressemblance. Et puis, c'est la première chose. Donc, c'est la pluridisciplinarité, c'est pas la même chose que la transdisciplinarité. Hein? D'accord ? Bon, on pourra en discuter, mais c'est aussi, disons, l'évolution dans le temps, c'est-à-dire la notion de temps qui est très importante. On ne peut pas tout faire en même temps. Et enfin, je pense qu'il y a une approche aussi qui est de plus en plus prégnante, c'est-à-dire que les ordres ne viennent pas d'en haut pour descendre en bas. C'est-à-dire qu'il y a une construction qui vient d'en bas pour aller progressivement vers le haut. Et à Saclay, pour convaincre les gens, j'avais développé une organisation qui était basée sur le modèle simplifié du cerveau. Et je connaissais le problème, l'image de la fleur avec des pétales. Alors, vous avez une fleur, j'avais représenté au tableau, avec une tige qui représentait la respiration et les feuilles, c'est-à-dire la verdure, ce qui est absolument indispensable dans l'organisation d'une ville. C'est des endroits de respiration qui sont absolument nécessaires, une structure en pétales. Et il y avait trois pétales, à chaque fois représentant un réseau. Le réseau exécutif, le réseau régulateur et le réseau énergétique. Et un bouton central, qui était un point de convergence. Le réseau exécutif, c'était les gens à Saclay qui étaient responsables des différentes disciplines, hein, des mathématiques, physique, biologie, chimie, sciences humaines, ainsi de suite, etc. Et dans des institutions différentes, vous voyez, Polytechnique, Centrale, la faculté Paris 11, Versailles, ainsi de suite. Et j'ai dit, voilà, vous avez formé un groupe d'une vingtaine de personnes, une personne dans chaque institution, et vous allez imaginer l'organisation du campus dans votre discipline, comment vous la voyez, comment vous voyez le campus. Et vous avez ce cercle, le réseau exécutif, donc il y avait une vingtaine de personnes représentant les différentes fonctions d'enseignement et de recherche, et ils avaient le droit, eux, de créer leur cercle d'experts, ou de pouvoir qui voulait, et de proche en proche, il revenait sur le cercle principal. Et puis, ensuite, j'ai pris le réseau régulateur, c'était les maires, les députés, les associations, les utilisateurs, les représentants des enseignants, les représentants d'associations de quartier, ainsi de suite. Et on a créé un groupe de 20 personnes qui eux-mêmes avaient leur réseau, par phases successives. D'accord. Le troisième, c'était les réalisateurs du campus, c'est-à-dire les urbanistes, architectes, paysagistes, géologues, géographes, ainsi de suite. Même des historiens, pour se souvenir de l'évolution du plateau. Hein. Bien sûr, j'ai oublié les agriculteurs, mais c'est important, puisque il y avait...
Hein? C'est quand même important.
C'est très très important. Et surtout, au campus, ils étaient particulièrement importants, puisqu'il y avait, des représentants du syndicat d'agriculture et il y avait sur le plateau des agriculteurs qui étaient extraordinairement importants. Donc, trois groupes comme ça. Et il y avait un bouton central avec les deux chefs de mission, puis quelques personnes qui connaissaient très très bien le campus. Et je faisais tourner chacun des réseaux. Et chaque semaine, il y avait deux personnes différentes de chaque pétale qui venaient dans le bouton central pour exposer où ils en étaient, d'accord ? Et après, ils retournaient pour donner de l'information, et ça tournait. C'est-à-dire que c'était jamais les mêmes. C'est-à-dire que comme ça, tout le monde était responsabilisé, et tout le monde était responsable. Et à la fin, progressivement, ben, le système s'est monté avec les économistes, etc. Et alors, ça fait une fleur. Alors, évidemment, une ville, c'est très, très grand, on ne peut pas faire comme ça. Mais on peut faire plusieurs fleurs. Et ça fait un bouquet, finalement. et plus il est coloré, plus il est diversifié, plus il est enrichissant. Merci. L'importance du chiffre 3, ben, je ne sais pas, j'ai appris ça à l'école, je veux dire, d'abord, j'ai toujours utilisé le chiffre 3, à la fois dans ma façon de m'exprimer, dans un plan, j'ai l'impression que c'est équilibré, quoi. Voilà, alors je m'amuse tout le temps quand je fais quelque chose à essayer de le faire en trois parties. Quoi. Voilà. Il n'y a pas de raison réelle. Ça pourrait être quatre, si vous voulez. Ça dépend de votre... Moi, j'aime bien trois.
Il y a plusieurs questions. Edith, Nicole,
Christine. Oui, merci beaucoup. C'était tout à fait passionnant et limpide. Et comme c'est limpide et compréhensible et stimulant, ça évoque de ma part... une proposition d'inversion et une interrogation. Pas sur le cerveau, hein, sur les villes, que je connais mieux que le cerveau et sur lequel j'ai travaillé depuis de très longues années. C'est la distinction que vous faites entre les fonctions, le réseau exécutif et le réseau régulateur. J'ai envie, dans ce que vous dites, d'inverser. Et de dire que le régulateur peut être exécutif et l'inverse. Et pour moi, je pense que penser la ville à partir des mobilités et ne pas penser, et des circulations, et ne pas penser la mobilité comme un facteur de régulation, c'est ne pas penser les mêmes villes. Et que ça peut être tout à fait intéressant. Je dirais la même chose pour la lumière. Moi, j'ai beaucoup travaillé à la RATP, on a fait des colloques ici sur la ville la nuit. Et la ville la nuit nous permet de comprendre des choses qu'on ne comprend pas le jour. On ne vit pas de la même façon le jour et la nuit. On est beaucoup plus contraint le jour. On est dans des systèmes institutionnels et autres qui nous brident. La nuit, on peut laisser, et tout l'enjeu était, est-ce qu'on va laisser vivre les villes 24 heures sur 24, coloniser la nuit parce qu'on n'a plus le temps. Bon, voilà. Donc je veux dire, le choix que vous faites à chaque fois, dans une architecture, pour dire ça c'est une fonction essentielle, où ça, c'est une régulation, me paraît une question importante. Et puis, par ailleurs, je trouve que le réseau énergétique, tel que vous l'avez défini, et qui nous fournit de l'oxygène et du glucose, et peut-être de l'énergie pour vivre dans les villes, au niveau de l'illustration, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile.
Peut-être, je l'ai oublié, vous avez raison.
Vous l'avez oublié dans la première partie,
non,
vous
non,
l'avez
mais repris sur sa clé. Je l'ai oublié, le réseau énergétique, je vais vous en parler, d'accord.
Vous l'avez repris sur sa clé, et sur sa clé, vous mettez les réalisateurs, les urbanistes, les agriculteurs, dont on sait bien qu'ils ont été des facteurs de résistance et tout à fait considérables. Et qu'en est-il des usagers? Qu'en est-il des étudiants? Qu'en est-il des chercheurs? Qu'en est-il de ceux qui sont... ce pour qui
Mais je l'ai dit, madame, je l'ai dit. Voilà. Mais peut-être que j'ai dit trop de choses et que c'est toujours la difficulté. Bon, la première question, vous allez inverser. Je réfléchis.
La mobilité, c'est pas
bon, je réfléchis beaucoup, si vous voulez, en ce moment avec d'autres, et je les écoute, hein, sur le problème de la réflexion sur la grande métropole Paris. D'accord. Avec le métro, etc. D'accord. Et il y a des hiérarchies. Et le problème pour Paris, où la température s'est élevée considérablement à cause de la pollution, etc. Et quand on va... Alors, on fait l'urbanisme en ce moment. Il y a beaucoup qui font l'urbanisme à partir des stations de métro telles qu'elles sont définies. D'accord. Et ce n'est pas obligatoirement une bonne manière de faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut remettre ça en question. C'est-à-dire que ce qui est important hiérarchiquement maintenant, c'est de trouver des grands corridors ou couloirs de respiration pour qu'effectivement, que la ville respire. Et en fait, je suis ulcéré, madame, de voir que c'est autour des futures stations de métro que l'on fait l'urbanisme. On a défini des circonférences autour, d'accord, les promoteurs arrivent, d'accord, on construit des bureaux, on construit des tâches, des commerces, etc. Et les gens qui habitent là, ils sont repoussés plus loin. Donc c'est pas comme ça que je considère, enfin personnellement, que je vois, si vous voulez, comment on va construire une ville. Enfin, mais j'ai simplifié. Mon modèle est simplifié. Ça veut dire qu'obligatoirement, il y a des transitions. On peut voir autrement. Quant aux utilisateurs, ils sont compris dans le réseau régulateur, évidemment, qu'on demande leur avis aux enseignants, aux utilisateurs. Mais c'est aussi difficile quand vous demandez aux étudiants, parce que, vous savez, j'ai été moi-même étudiant, ils ont une vision statique. Elle est intéressante. Mais ils n'ont pas une vision avec le recul, etc. Et ce qui est important, et je l'ai vu pour le Collège de France, tout le monde s'est opposé quand j'ai commencé à dire « je vais creuser les cours pour faire un centre de congrès souterrain », j'avais beaucoup de professeurs et des gens illustres qui étaient opposés. C'est-à-dire qu'il faut se projeter dans l'avenir. Bon, alors que vont être les études? Par exemple, en Bretagne, quand j'ai fait le plan campus, quand j'étais en plan campus, j'étais un très très intéressé, puisque dans cette région, ils avaient l'idée de connecter plusieurs universités entre elles pour faire un système d'enseignement complètement nouveau. Chapeau, c'était très très bien. Donc vous voyez, mais j'admets vos critiques et c'est des constructifs et vos propositions.
Je peux intervenir?
Oui, bien sûr.
En fait, je me suis posé une question similaire. Vous avez parlé de vos trois systèmes et à un moment, vous avez évoqué l'image de poupée russe.
Oui, emboîté.
Donc Edith propose un renversement des choses. Moi, j'aurais plutôt vu les trois systèmes posés les uns à côté des autres. Quelque chose.
Oui.
Non pas quelque chose comme ceci, comme vous avez fait, ni l'inverse, comme ce qui a été dit, mais peut-être quelque chose comme ça, où finalement le système de hiérarchisation. Qui n'apparaît pas ici, mais qui se recompose à chaque fois.
Oui, mais quand j'ai parlé de
suggestions.
Oui, mais je réponds tout de suite. Quand j'ai parlé de poupée russe, c'était à l'intérieur du système régulateur. C'était pas les trois réseaux. Si vous voulez, par exemple, il y a une hiérarchie dans les systèmes régulateurs, dans les systèmes qui interviennent dans le réseau régulateur. Vous avez des réseaux. Et je vais prendre des images. Beaucoup plus, disons, directionnel en quelque sorte. Par exemple, les systèmes dopaminergiques sont intéressants parce qu'il y en a un qui innerve la sphère sensorimotrice, l'autre qui innerve la sphère limbique, l'autre qui innerve la sphère cognitive, d'accord ? L'autre qui innerve la sphère endocrinienne. Ouais. Donc vous voyez que c'est très très bien réparti. Et ils ont un certain nombre d'effets. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une drogue qui agit sur le système dopaminergique a des effets secondaires. Ouais. On comprend tout de suite. Mais vous avez un autre système qui régule le système dopaminergique. Les systèmes, c'est par exemple les systèmes cholinergiques. Ils sont un peu antagonistes du système dopaminergique. Donc c'est ça mes poupées russes. Ouais. C'est pas les trois réseaux. Voilà.
Il y a une question de Nicole et Justine et François. Nicole.
Bon, moi, je voudrais au fond revenir à la raison profonde pour laquelle vous avez aimé les campus aux États-Unis. Et donc, je vous demande, si vous voulez, parce que finalement, vous avez fait une sorte de saut entre votre goût pour l'architecture, votre plaisir, et le plaisir que vous aviez ressenti à l'architecture que vous aviez trouvé aux États-Unis, et ensuite le temps où vous avez étudié le cerveau, vous avez fait des découvertes avec d'autres, etc. Et vous avez transposé, au fond, ces connaissances-là, vous les avez transposées ensuite dans l'action, dans le campus du jour. Entre parenthèses, j'aimerais savoir le campus algérien, par exemple, ça m'intéresserait.
Le campus, pardon ?
Algérien.
Oui.
C'était où ? Enfin,
c'était Alger, c'était...
C'était Alger, ouais. Voilà.
Mais moi, je ne suis pas allé, j'ai juste travaillé comme ça dans l'équipe de...
Donc, ma première question, si vous voulez, c'est la question de savoir, au fond, est-ce que vous avez retrouvé le même plaisir, si vous voulez, dans ce que vous avez fait au Collège de France ou à Saclay, dans le plateau de Saclay, par rapport à votre... Et est-ce qu'il n'y a pas tout simplement quelque chose qui a été transposé sans finalement... Est-ce que vous avez retrouvé la raison pour laquelle vous aviez du bien-être ou est-ce que il s'est passé autre chose et vous avez finalement mis... vous avez fait une espèce de... Par métaphore, en quelque sorte, vous avez fait passer l'idée du modèle simplifié du cerveau, qui est, entre parenthèses, qui n'est pas très simple, et puis à justement un organisme qui, en plus, n'est pas vivant. La vie n'est pas vivante.
La vie n'est pas vivante ?
Non, elle n'est pas. C'est-à-dire, elle n'est pas un cerveau.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Bon, alors, vous voyez, donc, alors, ça c'est ma première question, et puis, bon, je vais vite aller à l'autre, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, aussi se pose le problème, mais pourquoi pas la campagne, mais pourquoi pas Cerisy, c'est-à-dire, cette transposition, finalement, que vous avez faite avec l'idée de ville, hein, vous l'avez faite, au fond, sur une idée qui n'est... dont on ne sait pas non plus tellement comment ça fonctionne, aussi bien, probablement aussi bien que le cerveau.
Ben ça,
parce que il y a des hommes dedans, ouais. Des individus dedans, et il y a aussi beaucoup de cerveaux dedans, ouais. Beaucoup de cerveaux, hein, qui se contredisent, etc. Et donc, je pense que si vous voulez... Comment vous voyez aussi le passage, parce que ça, c'est quand même très, très, très intéressant ce que vous avez, cette espèce de passage entre des entités qui sont quand même complètement différentes, si vous voulez. Est-ce qu'on peut le faire pour tout lieu ? C'est-à-dire pour tout lieu, pour ici, pour la campagne, pour une maison, pour une maison, simplement.
C'est formidable, en fait il faudrait plus qu'une semaine avec vous pour pouvoir... C'est ça qui est la richesse de cette organisation. Au début de votre question, si vous voulez, ce qui m'a frappé aux États-Unis, au départ, c'est cette capacité de pouvoir faire, à l'inverse du système de formation française. J'avais eu le sentiment, c'était une bonne époque des États-Unis, de grande liberté, de facilité, d'organisation. Donc j'étais assez ébloui. Mais c'est vrai qu'en revenant, je me suis dit, il ne faut absolument pas imiter ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'il faut tenir compte du site, du lieu, le respecter, de l'histoire, et qu'il faut trouver autre chose pour pouvoir... non pas être en compétition avec les États-Unis, ce qui était très difficile, mais tenir compte des forces de l'ensemble qui existait, et surtout pas les imiter. Donc, je vais répondre tout de suite à votre première question. Pour moi, toute action et la recherche en premier, c'est les relations humaines. C'est-à-dire que c'est les relations humaines qui comptent. J'ai toujours pensé que 50% d'efficacité dans une action, c'est le milieu humain. Donc, ce que j'ai cherché en créant le groupe de pharmacologie au Collège de France, j'ai commencé tout seul. Hein. Bon. Et donc, ce qui m'a guidé, c'était justement de créer quelque chose de collectif qui permettait, c'est ça que j'avais connu aux États-Unis qui était formidable. Mon patron aux États-Unis était un type très modeste qui est devenu prix Nobel. Après mon séjour aux États-Unis en 72, moi je suis revenu en 66, et il était de conditions très modestes, et il avait eu la possibilité de créer un groupe de recherche avant même d'être docteur en sciences. C'est cette capacité-là que j'ai trouvé extraordinaire, Et ce qui m'a toujours guidé dans mes actions, c'est finalement de donner la possibilité ou la capacité à des gens qui ont une spécificité particulière et surtout une capacité manuelle au départ. Ce qui m'a plu dans l'architecture, c'est pas tellement, vous ne voulez pas les architectes, mais c'est les ouvriers, c'est-à-dire finalement les gens qui sont sur le terrain. Quand je vois quelque chose se construire, un beau mur, ça me fait plaisir. Alors je peux pas, je sais pas si je pourrais passer à la campagne, mais en tout cas, voilà. Et si j'ai trop simplifié, c'est parce que il y avait quand même un temps limité.
À propos de temps limité, je vais être obligé de limiter le nombre de questions. Justine, d'abord, François.
Votre nom.
Il faut dire le
nom. Ouais, mais présentez-vous aussi pour que chacun mémorise les prénoms et les noms.
Donc Justine Pérez.
Nicole
Mathieu. Je vous remercie pour votre présentation qui m'a absolument passionnée. Je trouve ça fascinant de mêler les deux disciplines et la manière dont elles peuvent se regrouper. Et justement, ma question porte là-dessus par rapport à l'interprétation des données du point de vue d'un neurobiologiste par rapport à l'architecture. Donc, qu'est-ce qui va prévaloir pour vous dans l'interprétation des données? Et je vais vous expliquer le cadre de cette question, c'est-à-dire, puisque vous aimez les schémas ternaires, je vais ajouter une troisième discipline qui est la mienne, qui est la littérature. Je vous explique. Quand je vous écoutais, j'ai pensé très fort à un roman qui est le procès-verbal de Jean-Marie Gustave de Clézio, qui, voilà, très brièvement, va raconter l'histoire d'un jeune homme qui va se faire passer pour mort, en simulant son suicide, et vivre de deux choses, l'identification et la multiplication. C'est-à-dire qu'il est tout le monde. Il se considère comme chacun d'entre vous. Donc il va se mêler à la foule dans la ville de Nice et suivre les mouvements de manière aléatoire. Il ne sait pas ce qui va prévaloir au monde. S'il y a un chien qui passe, il va suivre le chien, etc. Et donc ça, c'est pour la multiplication et en même temps l'identification. C'est pour l'identification et en même temps la multiplication, c'est-à-dire qu'il va se coucher sur une pierre et devenir cette pierre par des procédés moléculaires qui sont décrits dans cette fiction. Cela va entraîner une métamorphose de l'être par rapport à la ville, une véritable métamorphose d'identification qui va arriver à un point de rupture au moment où on lui demande de rationaliser sa démarche. Au moment où on lui demande « Pourquoi faites-vous ça ?», il est incapable d'y répondre, il tombe dans l'aphasie, il perd la faculté de parler. Et alors, du coup, je me suis posé la question par rapport à la ville. Quand vous avez parlé de mobilité parfois empêchée, contrainte, etc., ce que je remarque aussi dans la ville, c'est qu'on ne prend pas toujours compte ou rarement compte de l'instinct. C'est-à-dire, on va poser des schémas, des ronds-points, par exemple, avec des feux rouges, etc., et tout ça prévaut pour les voitures. Mais là où le piéton, lui, instinctivement, n'a qu'une envie, c'est de tout traverser. D'ailleurs, il le fera. C'est pour ça qu'on a des chemins de traverse en milieu de parterres de fleurs, par exemple. Et du coup, je me suis posé la question de la rationalité par rapport à l'instinct, sans vouloir être binaire non plus. Voilà, dans votre interprétation des données neuronales par rapport à l'architecture, qu'est-ce qui va prévaloir?
C'est une question. C'est 1000 questions que vous posez là. Bien, c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Ce qui est intéressant, ce sont les cheminements. Ce sont l'instinct, ça veut dire. Alors, je vais repartir sur mes sphères cérébrales. C'est obligatoirement un mélange de trois sphères qui finalement s'associent pour faire un choix. Et vous faites un choix, votre instinct, c'est pas si instinctif que ça. Ça tient compte de votre histoire passée, de vos souvenirs et finalement de votre perception. Quand vous voyez quelque chose, ça vous rappelle quelque chose et vous allez vers là. Donc ce qui est formidable, c'est justement pour la ville, c'est de donner cette capacité que n'importe qui peut trouver quelque chose qui va l'attirer. C'est l'attractivité. Et l'attractivité, elle est variable en fonction des individus. C'est pour ça que quand vous êtes dans Venise, c'est une succession de découvertes extraordinaires entre l'eau, la diversité des couleurs, la diversité des maisons, les personnes, etc. Et quand vous y revenez, à chaque fois, vous faites de nouveau une nouvelle découverte. Ça s'additionne progressivement. Donc l'instinct, c'est pas si instinctif que ça. C'est quelque chose qui est beaucoup plus construit qu'on ne pense. Alors, j'ai pas bien répondu à votre question, mais bon, voilà.
François Mancebo, je me suis déjà présenté hier soir, donc je ne vais pas recommencer. Architecte, alors, aménageur urbaniste, vous aviez parlé au début de l'épilepsie comme d'un passage entre des cellules de corps qui étaient ouvertes. Vous avez également parlé ensuite, et ça m'a intéressé, du Grand Paris. Et de la manière dont on mettait autour des stations de métro les différents bâtiments de construction. Et je me suis dit, c'est une question pour laquelle j'ai ma réponse, mais je pose la question quand même pour avoir votre avis.
Ah, donnez-moi la réponse.
De cette façon de créer de la viscosité. Est-ce que l'idée dans un espace de considérer que la mobilité d'un point vers un autre est fondamentale n'est-elle pas une erreur? Est-ce que la ville n'est pas un endroit dans lequel on aurait intérêt à favoriser, par exemple, des réseaux capillaires, favoriser une certaine viscosité, de manière à éviter un certain nombre de phénomènes dont vous venez parler, ou d'autres, qui sont des phénomènes de gentrification dans lesquels, si je peux habiter loin et qu'il fait beau, eh ben, je vais y aller, et donc je vais avoir des zones ghetto et des zones plus riches, et donc la mobilité généralisée semble, à mon avis, créer de véritables problèmes, mettre en place une viscosité. Et je pensais, derrière cette viscosité, à quelque chose qui avait été dit tout à l'heure également, à la fin, sur la connexion. Je me dis, là, le problème avec le fait que les gens soient connectés n'est pas seulement, selon moi, qu'ils soient en train de regarder leur iPhone. C'est qu'on a un signal qui va déclencher des réactions un peu synchrones entre des gens qui vont devenir, d'une certaine manière, dépendants les uns des autres à faire une part de liberté. Et la ville est peut-être un endroit dans lequel il serait bon qu'il y ait des espaces, comme ici, pas forcément connectés, dans lesquels, là aussi, il y a une certaine viscosité et des comportements pas forcément normés, pas forcément attendus, puissent se développer. Parce que la ville se construit dans la durée à partir de chaos sans cesse récupéré, réintégré dans un mécanisme de ce type. Voilà, c'est une question, mais c'est une question-réponse.
Je vais répondre d'une manière imagée à ce que vous venez de dire, qui est tout à fait judicieux. C'est que ce qui m'avait frappé, c'est quand j'étais étudiant, c'est une expérience d'un neurochirurgien qui s'appelle Penfield, un Canadien. À l'époque, pour découvrir le cerveau, c'était un peu difficile, on descendait des électrodes. Bon, la dure mère, ça fait mal, mais après, ça va. Enfin, j'espère que c'est pas moi qu'on prend. Eh bien, il stimulait certaines zones du cerveau, et notamment dans l'hippocampe, dans une structure nerveuse, peu importe. Et il demandait aux patients ce qu'ils voyaient. Et alors, la réponse était la suivante. Il était capable de se souvenir, par exemple, si je prends cette pièce, de toutes les personnes qui étaient dans la pièce, de toute la lumière, de tout. Mais seulement quand on lui demandait consciemment ce qu'il se souvenait, il se souvenait d'une interaction avec deux personnes, etc. Ça veut dire que vous emmagasinez énormément d'informations, d'accord ? Et c'est ça la viscosité, c'est-à-dire finalement la capacité de passer d'une information à une autre. Et vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je pense que dans une ville, il faut que ça soit redondant. Il faut que ça ne soit pas obligatoire. Il faut que chacun puisse trouver sa voie. Et un système visqueux, alors visqueux, c'est fluide, si vous voulez. Vous avez tout à fait raison. C'est ça, quand vous construisez pour un ensemble de bâtiments, il faut pouvoir que, justement, chacun puisse trouver sa voie pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre. Bon, je suis complètement d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous. Donc, je ne peux pas dire que je vais répondre plus longuement, puisque vous avez tout dit.
Il y a plein de questions, enfin, il y a plusieurs mains qui sont levées. Je suis obligé de proposer d'arrêter là. Je remercie Jacques infiniment. Merci.